C'est un grand désavantage de ne pas recevoir une bonne éducation dès son jeune âge. On ressent un cuisant embarras d'ignorer les choses que savent les autres.
Quatrième épisode, l'éducation des filles.
Manuela, tourne-toi. Prends-moi un peu. Elle est très timide et beaucoup trop sensible. Je trouve que son éducation n'a pas été suffisamment stricte.
Reinhardt, tiens-toi droite. Et va à ton armoire. Parfait. Ne la laisse jamais en désordre.
Non, mademoiselle von Racket.
C'est dans ce petit carnet que j'inscris tes notes. Si tu as plus de 10 mauvais points en un mois, tu es consignée. Et le dimanche, au lieu de sortir, tu restes ici. Alors, prends garde. J'espère que vous donnerez tout le bon exemple à votre nouvelle condisciple. Et que vous vous montrerez digne de notre chère maison.
Oui, mademoiselle von Racket.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Bonjour Madame Rebecca Rogers.
Bonjour Monsieur Jean Lebrun.
Vision peut-être un peu caricaturale que celle que nous avons esquissée dans ce générique. Alors vous êtes une grande spécialiste de l'histoire de l'éducation, je ne vais pas citer tous les titres que vous avez publiés. Et il y en a un chez Textuel, très illustré, très aéré, qui s'appelle « La fabrique des filles ». Ça va être peut-être un peu notre sujet. Je vais dire aussi que vous êtes la co-directrice d'une revue pionnière en histoire des femmes, Clio, une revue tenue essentiellement par des femmes. Oui, si la vision qu'on a de l'éducation au 19e, ça va être notre thème, pour les filles, et si elle est si outrée, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses, malgré les travaux de Françoise Mayer, malgré les historiennes qui vous tiennent compagnie.
On commence à bien connaître la nature des institutions qui existent, mais c'est vrai que tout ce qui se fait dans le fort privé est véritablement les expériences plus professionnelles des femmes qui se destinent à l'enseignement, on les connaît pas trop. Et notamment toutes ces femmes qui écrivent la littérature pour la jeunesse, beaucoup de femmes vivent comme ça. Et là, c'est encore un continent qu'il faudrait encore explorer.
Dès la fin du XVIIIe siècle, des pédagogues femmes écrivaient sur les thèmes qui vont être les nôtres aujourd'hui. Et il faut qu'on ouvre cette émission avec un bref portrait que vous allez tenter de Madame de Genlis, qui était la gouvernante des enfants de Philippe Égalité, le duc d'Orléans.
Alors, elle tenait au titre de gouverneur et non pas de gouvernante. Donc, elle serait pas très à la mode aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a non seulement assuré cet enseignement au royal, mais qui a écrit plus de 140 livres pour la jeunesse, des livres pour enfants, des traités pédagogiques, des ouvrages qui ont été maintes fois réédités au 19e siècle et traduits dans d'autres langues. Donc,
elle a émigré pendant la Révolution, mais elle est revenue sous Napoléon, puis elle a eu le plaisir de constater que le duc de Chartres, qu'elle avait gouverner,
oui,
entrait à la tête du gouvernement, devenait le roi Louis-Philippe en 1835. C'est un texte ancien dont voici une lecture, Adèle et Théodore. C'est un texte d'avant la Révolution, mais qui a le mérite de faire réfléchir sur l'importance dans l'éducation des filles de l'amour maternel.
Le sentiment maternel doit être le plus désintéressé de tous, puisqu'il ne peut espérer un retour égal. N'exigeons donc point de nos enfants une tendresse aussi passionnée que celle que nous avons pour eux. Je suis l'objet des premiers sentiments d'Adèle, mais n'aura-t-elle pas un jour un époux, des enfants, une fille? Alors quelle sera ma folie si je prétendais encore dominer dans son cœur? Dès à présent, je veux qu'elle ne soit pour moi que ce que je puis raisonnablement désirer qu'elle soit toujours. Qu'elle me quitte avec peine, mais sans répandre des pleurs. Qu'elle puisse me voir un accès de fièvre sans tomber elle-même malade de chagrin. Enfin, que sa tendresse pour moi, fondée sur la reconnaissance, soit profonde, inaltérable, mais que la raison en règle tous les mouvements.
Vous me direz que cette retenue recommandée par Madame de Genlis, ça pourrait concerner aussi bien les pères. Un ami avec qui je déjeunais ce midi me disait avoir exprimé son amour pour sa petite fille pendant un long séjour de vacances qu'il a fait, à quoi il s'est entendu répondre « Ne t'attache pas trop ».
Bah, je pense qu'il est assez extraordinaire dans ce texte, c'est cette notion qu'il y a vraiment une pédagogie maternelle à transmettre auprès des mères et à faire comprendre aux enfants que l'arrivée vers l'âge adulte implique la raison et pas que les affects. Et c'est particulièrement important pour les filles qu'on associe à tout ce domaine de l'émotion, de la religion, alors que Madame de Genlis souhaite autre chose et plus. Pour les filles.
Il y a d'autres noms qu'on peut citer, Madame Campan.
Alors, Madame Campan, c'est une de mes personnages préférés.
Oui, parce que vous avez publié un livre chez Perrin dans la nouvelle édition sur les demoiselles de la Légion d'honneur, l'établissement de Saint-Denis, l'établissement des Coins pour les enfants de chevaliers de la Légion d'honneur.
Voilà. Alors, Madame Campan, qui est un personnage un peu comme Madame de Genlis, à cheval sur le 18e et le 19e siècle, quelqu'un qui a été très associé à la cour, mais qui va changer son fusil d'épaule, en quelque sorte, pendant la Révolution, va tenir un établissement pour des jeunes filles, fille de l'aristocratie, mais très cosmopolite. La fille du futur président américain, Eliza Monroe, fera ses études chez Madame Campan. Et puis ensuite, elle sera nommée surintendante de la première maison d'éducation de la Légion d'honneur.
Et puis rendons hommage à Pauline Guizot, c'est la première femme de l'homme d'État, Guizot. Elle publiait un livre quand ils étaient jeunes tous les deux, un journal spécialisé dans les questions d'éducation. Et je cite le nom de Guizot aussi parce que son époux, devenu veuf en 1833, il préside à la première loi sur l'instruction primaire généralisée. Il y a des écoles Guizot qui commencent à se créer et où il y a des filles et des garçons dans la mixité ou... Alors, au nom de la nécessité économique dans la cohabitation.
Alors, en 1833, on envisage de créer des écoles de filles aussi, des établissements publics, mais on juge que c'est trop onéreux. Et du coup, les premiers établissements sont très souvent mixtes. Et il faut attendre la loi de 1850, la loi Falloux, pour que l'État dit qu'il faut, dans des communes de 800 habitants, établir des écoles de filles. Et ça donnera un vrai coup de pouce au développement. Développement des écoles de filles, là pour les populations les plus pauvres.
Et dans la période qui nous intéresse, avant 1850, dans cette première partie de la marche de l'histoire, qu'est-ce qu'il en est de l'enseignement secondaire ? La question n'est pas vraiment posée. Cependant, il y a une interrogation des parents. Tenez, George Sand. Elle a voulu d'abord que sa fille, Solange, soit élevée par la bonne, par une institutrice à domicile. Et puis au bout d'un moment...
À Frédéric Chopin, Paris, octobre 1840. J'ai changé d'avis depuis hier à la suite d'une nouvelle scène avec Solange. Je mettrai donc Solange en pension, mais en y songeant bien, c'est le seul parti convenable. Solange ne fait rien chez moi et son institutrice a épuisé ses peines à la vouloir diriger comme je l'entendais. Je m'userai moi aussi à vouloir obtenir d'elle moins de légèreté et plus d'attention. Il n'est point d'ailleurs, selon moi, de pire institutrice qu'une mère. Nous n'avons en nous ni le calme, ni le sang-froid nécessaire pour savoir modérer nos préceptes, graduer nos leçons et surtout contenir nos impatiences. L'esprit de Solange était d'ailleurs devenu trop indépendant. La discipline lui est inconnue. Soyez bien persuadés cependant que je surveillerai de loin le programme de son propre travail. Je ne veux pas qu'on la fatigue ni qu'on remplisse de trop de choses son esprit si impressionnable. Je ne veux pas non plus qu'on la pousse trop en dehors des voies de la philosophie et de la religion naturelle. Et j'entends qu'elle reçoive une éducation religieuse qui ne soit ni routinière ni absurde.
Bah oui, mais cependant, la solution la plus fréquente en 1840, c'est le pensionnat religieux tenu par des congrégations soit anciennes comme les Ursulines, soit plus récentes, l'Assomption, le Sacré-Cœur, etc.
Oui, mais il y a quand même un choix qui existe, et notamment dans les grandes villes où on peut trouver beaucoup de pensionnats laïcs, mais ce qui domine, et ce qui domine aussi dans l'imaginaire de l'époque, c'est l'idée du pensionnat religieux qui est à la campagne, qui a des jardins, qui peut accueillir beaucoup de monde et qui offre une forme de sécurité aux familles qui souhaitent éloigner leurs filles des dangers de la vie publique.
Et si le pensionnat est en ville, on va l'appeler les oiseaux, pour faire campagne.
Voilà, et c'est vrai que dans les villes, il y a des espaces. C'est l'un des aspects sur lequel les maîtresses de pension insistent, c'est l'existence d'espaces verts, de bon air, d'endroits où les jeunes filles peuvent faire des légers exercices de gymnastique.
Mais attendez, vous dites maîtresse de pension. Il y a aussi des sous-maîtresses de pension. N'y voyons pas d'équivoque dans l'utilisation de ce vocabulaire. Mais les maîtresses de pension, ça peut aussi être des dames qui n'ont pas la vocation religieuse et qui cherchent un travail rémunéré.
Tout à fait. Et à partir des années 40, 1840, en France, on voit de plus en plus de femmes, et même la création d'une revue d'enseignement des femmes qui cherchent à orienter les femmes vers ce métier, donner les informations sur les diplômes qu'il faut passer. C'est par département qu'il faut passer ces diplômes pour pouvoir ouvrir une pension ou une institution de jeunes filles.
Et il y a une inspection, une évaluation du fonctionnement des établissements qui, alors, en plus, se livrent à une concurrence féroce, j'imagine.
Voilà, elles sont évidemment concurrentes les unes contre les autres. Et il y a des inspections qui se mettent en place, là aussi, au niveau départemental. Et on peut avoir un peu une idée de ce qui se passe, mais ça dépend beaucoup des endroits. Et dans les régions les plus rurales, évidemment, on ne va pas beaucoup inspecter dans des établissements.
Je sais que vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, Rebecca Rogers, mais moi j'ai lu, est-ce que c'est vrai, que externat et internat, ça concernait 2000 filles à Paris, en 1840, sous Louis-Philippe, et à peu près autant, ou peut-être même un peu moins en province.
Oh, il y a 2000, oui, certainement.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais c'est quand même... parmi des populations qui peuvent payer les sommes pour aller dans ces pensionnats qui ne sont pas, qui sont relativement chers, il faut vraiment être de la bonne bourgeoisie pour pouvoir y aller. C'est pas rien. Puis ça continue, ça se développe beaucoup à partir des années 50 surtout.
Ça tombe bien que vous parliez des années postérieures à 1850 parce que voici un témoignage assez tardif. Madame Moati, enregistrée en 1984, sur les externats des beaux quartiers, qui se tenait dans des appartements à l'étage.
Où est-ce que vous êtes née ?
À Paris, dans le premier arrondissement. J'ai d'abord été dans un petit cours du quartier où on gardait les enfants jusqu'au brevet. C'était mixte jusqu'au certificat d'études. Et puis après le certificat d'études, on ne gardait pas les garçons. Et j'y allais comme externe, on m'y accompagnait le matin. C'était la cuisinière en allant faire son marché qui m'accompagnait au cours le matin. Et le travail, les devoirs qu'on faisait, les dictées, c'était une partie de plaisir. Les problèmes, c'était un amusement pour essayer de les résoudre. J'y arrivais pas toujours. Et ma foi, je crois que j'ai été très bonne élève, mais pas une élève très sage, hein. Et c'était tout à fait familial, c'était... Mais à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de cours de récréation, c'était en appartement, c'était au quatrième étage. Et alors, on venait, la bonne vous amenait, puis on venait vous chercher. La bonne nous emmenait au Palais Royal jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis après, on rentrait, on dînait, comme je crois ça se fait à travers tous les âges. Le jour où ma mère recevait ses amis, alors là, c'était la privation des jeux du Palais Royal. Parce que, en rentrant du cours, la bonne me ramenait immédiatement dans la chambre, on mettait la jolie robe, et puis on allait chercher la pierre ponce, l'horrible pierre ponce, avec laquelle on frottait les mains pour essayer d'éviter les taches d'encre. Moyennant quoi, quand on avait réussi à peu près, j'étais admise au salon où ma mère recevait ses amis, où on dégustait des gâteaux, et alors là je faisais le petit sage chavant, c'était le fin fond des occupations de la Parisienne à cette époque-là.
Et au salon, on jouait au piano, on faisait de la musique, on chantait parce qu'il y avait... un enseignement musical très important, j'imagine, pour cette demoiselle.
Alors, les arts d'agrément, ça fait vraiment, c'est le plus, hein, quand on va dans un établissement, qu'il soit un internat ou un externat, on paye plus pour la possibilité d'avoir des leçons, souvent avec des professeurs qui ont de vrais talents comme artistes eux-mêmes.
Allez, c'est l'instant où on va entendre Pauline Viardot. grande chanteuse. On avance insensiblement avec elle dans le 19e siècle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Notre réalisatrice, Audrey Ripouille, me signale que malgré notre talent, Rebecca Rogers, les voies du passé sont impénétrables et la tarentelle, ça sera, ça a été, sans Pauline Viardot, mais avec Ayako Tsuruta et Annette Barbara Vogel, piano et violon. L'éducation des filles, je dis qu'on avance. Dans le 19e siècle, vous avez indiqué l'importance de la loi Fallou en 1850 qui va généraliser l'enseignement primaire et qui, en tout domaine, qu'il s'agisse de la colonie pénitentiaire ou de l'établissement d'éducation, favorise le privé. Donc les congrégations religieuses vont encore avoir l'avantage dans les années de la fin de la Deuxième République et du début du Second Empire.
Bah, le fait que les enseignantes dans des congrégations n'ont pas besoin de passer un diplôme, mais il suffit d'avoir une lettre d'obédience qui est signée par leur supérieur général.
Ah oui, ça ouvre le droit d'ouvrir une école et d'enseigner.
Ça ouvre le droit d'enseigner dans une école. Donc évidemment, elles ont un avantage sur les laïcs, comme en général, elles ont un avantage parce qu'il y a derrière elles la congrégation qui permet d'ouvrir des établissements plus grands, alors que pour une femme laïque, c'est un investissement qui est plus compliqué quand on est dans le privé.
Oui, mais en arrière-fond, il y a une lutte de sourde et de plus en plus ouverte entre cléricaux et anticléricaux. Parce que pour l'Église, il faut bien comprendre ça, au XIXe siècle, la reconquête de la pratique et de l'influence, ça passe. Beaucoup plus que par les hommes, par les femmes.
Ça passe par les femmes qui sont les premières éducatrices de leurs enfants, qui transmettent les premiers messages religieux. Donc, de fait, oui, c'est un combat qui est plus ou moins feutré en fonction des personnes.
Mais à mesure que le Second Empire avance et se détache, après la polémique sur la question pontificale, la question romaine de l'Église, des signaux rouges s'allument peu à peu. Ainsi, en Haute-Marne, voici une jeune institutrice redoutable, Louise Michel.
Louise, qui doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, s'installe à Chaumont, où elle suit des cours et obtient un diplôme d'institutrice.
Désirez me voir, monsieur le recteur ?
Oui, mademoiselle Michel. Je vous en prie.
Le ministre de l'Instruction publique vous autorise à ouvrir une école à Oudelancourt. Je me permets simplement de vous rappeler les devoirs particuliers qui incombent aux instituteurs. N'oubliez jamais que votre devoir principal est de donner aux enfants une éducation religieuse et graver profondément dans leur âme le sentiment de leur devoir envers Dieu. Vous n'oublierez pas de les conduire aux offices et veillerez à ce que les classes soient toujours précédées et suivi d'une prière. Et sur ce, mademoiselle Michel, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre tâche.
Mes enfants, je vous ai appris une belle chanson qui s'appelle La Marseillaise. Si vous le voulez bien, ce matin, à la place de la prière à l'empereur, nous allons la chanter. Un, deux, trois.
toujours se méfier, c'est Monique Chaumette qui interprète Louise Michel dans une dramatique de France 3 de Louise Michel qui dort.
C'est merveilleux, ça. C'est vrai que Louise Michel fait partie d'une petite minorité quand même d'institutrices qui sont ouvertement anticléricales et aussi très innovantes dans ses pratiques pédagogiques qui cherchent à développer une éducation plus libre, etc.
Soit dit en passant, Rebecca Rogers, je sais que vous êtes tête de file de toute une école d'histoire de l'école. Mais il manque un grand livre sur les institutrices.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et mes étudiantes souvent sont très intéressées par les institutrices et il y a des informations un peu parcellaires, mais c'est un vrai chantier qui mérite d'être développé.
Stéphane Bern a fait il n'y a pas longtemps une émission sur les instituteurs. C'est un scandale historiographique, écrivez-vous, que ce silence sur les institutrices.
Oui, qui sont déjà majoritaires dès la loi Ferry, si on compte l'ensemble du corps enseignant, dans le primaire, public et primaire.
Alors attendez, vous allez trop vite là, parce que vous êtes déjà à 1880, et moi je voulais vous parler de la fin du Second Empire, quand le Second Empire devient libéral, et que l'impératrice Eugénie elle-même, pourtant très dévote, soutient un nouveau ministre de l'Instruction publique et nommé en 1867, qui s'appelle Victor Duruy, d'où le nom du lycée, et Victor Duruy dit... Il faut poser la question de l'enseignement secondaire pour les jeunes filles.
C'est vrai que c'est un moment important, moment de prise où l'État décide de prendre en charge cette question de l'enseignement secondaire et prétend qu'il n'existe pas d'enseignement secondaire pour les filles, ce qui est un peu vite oublié, tous ces pensionnats dont on a parlé. Mais il va du coup créer ces cours qui nécessitent très peu d'argent parce que c'est...
Attendez, c'est quoi ces cours?
C'est des cours qui sont mis en place dans des municipalités quand les municipalités ont envie de le faire. Et ils créent des cours de philosophie ou de littérature ou de science. Et les jeunes filles sont emmenées par leur mère écouter des leçons des professeurs des collèges ou des lycées de garçons.
Alors c'est dans les grandes salles publiques, ça peut être les amphithéâtres d'université à la Sorbonne à Paris, mais c'est quand même pas rien parce que c'est 6 mois par an... Pendant 3 ans, 3 fois par semaine, on paye par abonnement.
On paye par abonnement, mais il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de devoir. Et donc, c'est vraiment la culture des intéressés, un peu comme le Collège de France aujourd'hui. Donc, les jeunes filles vont, surtout des familles protestantes ou juives qui valorisent l'enseignement.
Parce que ça concerne 2000 filles?
Ça concerne,
je sais que vous n'aimez pas les chiffres.
Mais... Voilà, non, si, ça va concerner sans doute au total de 2000 filles. 60 cours sont ouverts à travers la France entre 1867 et 78.
Et ça déclenche une polémique, vous dites des élèves catholiques? Non. Des élèves protestantes, des élèves juifs, pas d'élèves catholiques.
Ça provoque une vraie polémique parce qu'il n'y a pas de cours de religion. Et on propose à ces jeunes filles que ce soit des enseignants hommes qui dispensent ce savoir.
Alors, colère dans l'Église de France, avec pour porte-parole l'évêque d'Orléans, Monseigneur Dupont-Loup, qui dit en substance que quand... Les jeunes filles ont été élevées sur les genoux de l'Église, elles ne doivent pas passer entre les bras de l'université.
Les jeunes filles sont élevées pour la vie privée, dans la vie privée. Je demande qu'elles ne soient pas conduites aux cours, aux examens, aux diplômes, aux distributions qui préparent les hommes à la vie publique. L'enseignement secondaire des jeunes filles est demeuré généralement religieux, et la famille s'y ébranlée doit à cet enseignement ce qui lui reste de pureté. Je demande qu'on ne forme pas pour l'avenir des femmes libres penseurs.
Des femmes libres penseurs. Horreur.
Oui, et il continue des incroyantes, plus que cela, des docteurs féminins d'impiété, des professeuses d'athéisme, etc., etc. Et en même temps, Dupont-Loup, il fait partie
de l'aile
libérale, et c'est quelqu'un qui croit dans l'importance d'une éducation solide pour les femmes. Il publie un ouvrage sur femmes savantes, femmes studieuses, qui a beaucoup de bon sens, mais son objectif, c'est évidemment le rôle de la femme au sein de la famille et une femme croyante et qui fait passer les messages religieux.
Les cours lancés par Duruy ont eu une importance relative malgré les polémiques qu'ils ont provoquées. Et l'œuvre législative, elle est faite sous la Troisième République. Vous avez cité Jules Ferry, 1880. Alors, la création des lycées de jeunes filles, c'est une loi parallèle, Camille C, de la même date. Les lycées de jeunes filles qui préparent au bac, bien sûr.
Non, ne prépare pas au bac, et ça sera l'une des choses contre lesquelles proteste notre première suffragiste française, Hubertine Auclair. Mais il n'en est jamais question. Hein. Au moment où on propose cette loi Camille Sey, on propose deux cycles d'études. Trois ans d'études suivies de deux années facultatives. Et à la fin des cinq ans, donc deux années de moins que pour les garçons, on propose un diplôme d'études secondaires hein, qui n'est pas du tout l'équivalent du baccalauréat.
Alors, c'est ce qui se passe dans les premiers lycées de jeunes filles. Je vois la liste Fénelon, Racine, Molière, Lamartine. Il y aura un lycée Jules Ferry de jeunes filles, un lycée Victor Duruy de jeunes filles. Et il y a une école normale supérieure de jeunes filles qui est installée dans des locaux qui ne sont pas en très bon état au moment de l'ouverture, la manufacture de Sèvres. Mais alors, cette école normale supérieure prépare des professeurs pour les lycées de jeunes filles, mais alors, des professeurs agrégés ?
Alors, elles préparent des professeurs et elles ont tout de suite le problème, c'est de trouver des professeurs pour les lycées et les collèges de jeunes filles. Et donc les premiers établissements, il y a des hommes parce qu'il n'y a pas assez de femmes formées, mais on va tout de suite penser à créer une filière pour préserver la non-mixité auquel la République tient. Et du coup, on crée des agrégations pour les femmes.
Des agrégations parallèles, j'allais dire.
Parallèle à ce qui existe pour les hommes, qui sont de lettres et de sciences, et qui sont beaucoup plus généralistes dans leur esprit que l'agrégation des hommes, avec l'idée que c'est mieux d'avoir une culture large pour les femmes, ça convient, pour les hommes, il faut plus de précision, il y a des agrégations de physique, de chimie, de littérature.
Et dans les agrégations littéraires, il y a beaucoup, masculines, il y a quand même pas mal de latin. Alors le latin, c'est un écran pour les filles.
Alors le latin est un écran parce que justement dans ces cinq années prévues dans les collèges et les lycées de jeunes filles, il n'y a pas de latin, ni de grec, ni de philosophie. Et donc ce sont des matières reines pour le baccalauréat. Et les femmes qui vont très rapidement vouloir obtenir le baccalauréat pour être comme leurs frères, vont devoir trouver soit dans des établissements privés, comme le Collège Sévigné, qui va très rapidement préparer au baccalauréat, soit retourner vers les parents, les oncles, les pères.
Mais si je comprends bien, la République est masculine et se comporte comme telle dans l'enseignement secondaire, et ce sont des filles pionnières qui ont pris d'assaut de leur propre chef le baccalauréat en s'y présentant en candidate libre, l'agrégation de philo en 1905, il y a une candidate qui arrive, on la prend, on l'admet, ça va être la même chose pour les doctorats en 1913.
Ouais. Et je pense qu'en fait les femmes vont être beaucoup, les femmes et leurs familles, aussi bien les pères que les mères, vont être très moteurs dans la revendication d'un enseignement qui soit égal à ce que reçoivent les garçons, et que l'État est en retard et il faudrait attendre 1924 pour que les filles puissent passer le baccalauréat dans les établissements féminins.
Et ça nous donne en 1914, à la veille de la Grande Guerre, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, 35 000 élèves filles, ça nous paraît vraisemblable, mais au total il n'y a que 100 000 hommes.
C'est un enseignement scolaire. C'est un enseignement pour les bourgeois encore, et cet enseignement est un enseignement d'élite.
Voilà, les bourgeoises au pensionnat, c'est un de vos titres, la fabrique des filles, les demoiselles de la Légion d'honneur. Merci à vous, Rebecca Rogers. Cette émission a été préparée par Aurore Jouvenel, Audrey Ripouille à la réalisation, Guillaume Roux à la technique. Ainsi s'achève notre série sur l'éducation.